France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par cette nouvelle tombée dans la nuit. Sophie Pétronin est libre. Après 4 ans de détention au Mali, cette Bordelaise de 75 ans a été libérée dans la soirée. La présidence malienne a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle était en route vers Bamako, confirmation de l'Elysée. Sophie Pétronin était la dernière otage française dans le monde. Elle n'a pas été libérée seule. À ses côtés, hier soir aussi, l'opposant malien Soumaïla Cissé, enlevé lui en mars dernier en pleine campagne pour les législatives au Mali. 2 otages italiens ont aussi été relâchés. Nous ferons le point sur les conditions de cette libération dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, retour sur la situation sanitaire qui continue de se dégrader en France avec de nouvelles restrictions annoncées hier soir. Lille, Saint-Étienne, Grenoble et Lyon passent en alerte maximale. Ce pourrait être le cap aussi pour Toulouse et pour Montpellier dans les jours qui viennent, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé. L'alerte par ailleurs est renforcée pour les villes de Dijon et Clermont-Ferrand. Les déplacements ne seront pas limités pendant les vacances de la Toussaint, a également précisé Olivier Véran. À ses côtés hier, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, indiquait que 75 000 entreprises supplémentaires pourraient bénéficier du fonds de solidarité. Le premier ministre japonais à peine nommé fait face à de vives et rares rébellions dans le monde universitaire et scientifique au Japon. Les universitaires et chercheurs l'accusent en fait de violer le principe de liberté académique. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30. Et puis notez aussi que le Nobel de littérature a été décerné hier à la poétesse Louise Gluck, américaine de 77 ans. C'est la 16e femme à être récompensée par ce prix de littérature. Aujourd'hui, vendredi, nous connaîtrons le Nobel de la paix.
Avis personnel, expertise, coup de cœur ou flop, l'actualité artistique par Lucille Comeau.
La critique, c'est un temps donné tous les vendredis aux commentaires subjectifs et informés de l'actualité culturelle, avec des critiques de tous bords et de tous genres pour que vive ce goût partagé et contagieux de la dispute, qu'elle concerne des films, des livres, des expositions, des séries, des bandes dessinées, bref, tout ce qui s'aime et se discute.
La critique, le vendredi à midi sur France Culture et sur franceculture.fr.
Avant la dictée de Rachid Santaki, un texte, un classique au programme du baccalauréat de français, analysé de manière experte par des professeurs de l'éducation nationale. Cette semaine, Charlotte Rampling lit « Enfance » de Nathalie Sarraute.
Le malheur qui ne m'avait jamais approché s'est abattu sur moi.
En français dans le texte, par Olivia Gesbert, ce samedi à 17h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Bruno David à cette heure-ci avec Le Monde Vivant consacré en ce vendredi matin au cacaoyer.
Sur une fresque maya, le dieu de la pluie, Chak, boit un coup avec la déesse de la lune et de la fertilité, Ixchel. Le mélange du breuvage est détonnant, en voici la recette. Prenez d'abord des fèves de cacaoyer, appelées cacaoalt chez les Aztèques, cacao chez les Mayas, théobroma cacao chez les scientifiques d'aujourd'hui, pour désigner une plante à fleurs de la famille des Malvacées, comme le tilleul ou l'hibiscus. Vous avez compris que je vais vous parler du cacao et du chocolat. Mais revenons à notre recette. Attention, ces fèves doivent être de la variété criollo, plus aromatique et moins amère. Broyez les fèves et délayez la poudre dans de l'eau. Mélangez le tout à de la poudre de fleurs séchées d'oreilles divines, cymbopétalum pendulliflorum. Incorporez de la poudre de graines de recou, Bixa aurelana, pour colorer la boisson en rouge. Ajoutez un peu de piment, Capsicum annuum, de la vanille, Vanilla planifolia. Pour finir, épaississez le breuvage avec du maïs, Zea maïs. Il ne vous reste plus qu'à chauffer et malaxer le mélange pour le faire mousser et à le déguster tranquillement. Cet apéritif des dieux mayas ne manquait pas de punch. Tant et si bien que le grand botaniste suédois Carl Linné nomma au XVIIIe siècle la plante Théobroma cacao. Pourquoi ce nom? Le nom de genre est forgé à partir de Théo, dieu, et Broma, nourriture, en somme la nourriture des dieux. Le nom d'espèce cacao dérive simplement du nom de la fève, cacaoalt, que les Aztèques utilisaient pour préparer leur boisson, chocolatl. Jusqu'en 2018, il était admis que la domestication du cacaoyer trouvait son origine chez les Olmèques d'Amérique centrale il y a 2900 ans avant l'époque présente. Or, l'analyse des traces laissées au fond de vieux pots datés de 5300 ans, trouvés en Amazonie équatoriale dans les vestiges d'un village, change la donne. Ces poteries contiennent des grains d'amidon de cacao, des résidus de théobromine et de l'ADN de théobroma cacao. Comme les poteries sont issues de tombes ou de restes d'habitation, on pense que le cacao était utilisé dans cette région dans la vie de tous les jours. L'Amazonie équatoriale est donc le plus ancien centre de domestication du cacaoyer. Le Sénégalais qui jadis arborait un sourire tentateur sur les boîtes de banania fit croire au public français du XXe siècle que le chocolat était originaire d'Afrique, ce qui est faux. Les Espagnols, arrivés en Amérique centrale en 1519, découvrirent cette variété de cacaoyer et la nommèrent Criollo, puis l'importèrent en Europe. Un peu plus tard, la variété Forastero d'Amazonie, plus robuste, fut exportée vers l'Afrique par les Portugais, où elle est devenue la variété la plus productive, jusqu'à représenter aujourd'hui jusqu'à 80% de la production mondiale de cacao. Comme quoi il y a des plantes invasives qui ont un petit air bien sympathique, surtout le cacaoyer.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel à la radio ou en podcast disponible sur l'application de Radio France. Tous les vendredis, un coup de cœur, notre coup de cœur pour une bande dessinée récemment sortie.
C'est très facile de dire où s'adresse à quelques personnes. Ces quelques personnes n'y comprennent rien. J'ai vu hier soir. Alors quand on arrive à sauter l'obstacle de ces quelques personnes, on tombe parmi les purs et les simples et qui eux, je ne dis pas qu'ils comprennent, mais ils sentent. Je ne demande pas davantage. Il n'y a rien à comprendre. On ne comprend pas un poulet rôti. On le mange.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Jean Cocteau, artiste multiple et complexe qui a marqué la première moitié du XXe siècle. Mais quel rapport, me diriez-vous, avec l'actualité de la bande dessinée ?
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
57 ans après la mort du poète, François Rivière et Laureline Matuisi reviennent sur la vie et l'œuvre de Jean Cocteau dans une bande dessinée justement. C'est une bonne surprise, cette biographie en bande dessinée ne ressemble à aucune biographie. Elle est libre, elle est distanciée et surtout elle est poétique, donc tout en hommage à la poésie et au cinéma de Jean Cocteau. Cocteau, l'enfant terrible, c'est le titre de cette bande dessinée éditée par Casterman. Le scénariste François Rivière et la co-scénariste et dessinatrice Laureline Matuisi sont mes invités ce matin. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Avant de parler du parti pris graphique de cette bande dessinée, c'est un très très beau livre de 250 pages, tout en noir et blanc classieux. Avant donc de parler des séquences qui mêlent faits avérés et rêves supposés, onirisme et réalisme, et surtout avant d'évoquer le point crucial de cette bande dessinée, c'est-à-dire le procès de Cocteau qui est au centre du dispositif narratif de cette bande dessinée, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Jean Cocteau ? Pourquoi Jean Cocteau et pas Jacques Prévert ? Après tout, tous les deux ont essayé de transposer leur univers poétique au cinéma. Ils ont, et l'un et l'autre, marqué leur époque, la même époque, en imposant leur singularité. François Rivière, pourquoi Cocteau ?
Cocteau, lui, m'a tapé dans l'œil quand j'avais 12 ans, que je l'ai vu à la télévision, enfin très rapidement, un moment où il présentait dans une émission sur la philatélie le timbre à 20 centimes, la Marianne qu'il avait dessinée pour le timbre à 20 centimes, et ce personnage ébouriffé avec son blouson, enfin qui avait un côté un peu quand même extravagant, m'a amusé. Bon, et puis après, j'ai fait connaissance, si je puis dire, de lui plus tard, vers 14, 15 ans. Mais et puis le poète, enfin la poésie, les pièces de théâtre, les films, même si dans les années 60, on voyait pas trop. Cocteau venait de finir sa vie. Il avait été assez célèbre vers la fin de son existence, mais au point peut-être même de gaver un peu les gens et les médias qui s'intéressaient à lui. Bon, sont passés à autre chose. Et tout doucement, il est revenu. Et moi, j'ai petit à petit investi son univers parce que c'est tellement vaste. Enfin, vu les pièces, certaines pièces, vu les films, évidemment, parce que.
C'est pour ça qu'a priori, cette biographie était une mission impossible. Comment résumer toute la vie de Jean Cocteau, mais aussi ses livres, sa poésie, son cinéma, son théâtre?
Non, on ne résume pas la vie de Cocteau, enfin, c'est pas possible. Lui-même n'aurait pas réussi même à en retracer tout. Non, il préférait de parler de lui comme un objet difficile à saisir. Après avoir repéré cette définition dans un catalogue de farces et attrapes, effectivement, on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc, autant prendre des morceaux, faire des séquences, et c'est ce qu'on a fait avec l'Orline. C'est vraiment un découpage.
On va parler de cette forme kaléidoscopique de cette biographie consacrée à Cocteau. Laureline Matuissi, vous qui avez passé, je suppose, beaucoup de temps avec Cocteau, ça vous a pris combien de temps d'ailleurs?
Ça m'a pris 3 ans et demi. Pour moi, surtout, à tout en découvrir, puisque lorsque François m'a proposé le projet, en fait, de Cocteau, je ne connaissais que La Belle et la Bête. Cependant, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai accepté le projet, pas le plaisir de faire un biopic sur une personnalité que je ne connaissais pas, mais c'est que La Belle et la Bête comptait beaucoup pour moi, et notamment dans le rapport de noir et blanc, dans le rapport de lumière, en fait, surtout. Enfin voilà, l'image poétique, quelque chose de très très beau. Et c'est surtout aussi La Belle et la Bête qui a quelque part donné au livre sa couleur aussi. Vous parliez du fait que c'est un récit en noir et blanc. Et en fait, au moment où François m'a proposé ce projet, lorsque les projets sont séduisants en général et qui viennent de l'extérieur, ce qui distingue les projets séduisants de ceux qui ne le seraient pas, c'est justement un rapport d'immédiateté à l'image, en fait. Et voilà, et lorsque François m'a proposé ce projet, ce qui est arrivé de façon très forte pour moi, c'était bien entendu les images de La Belle et la Bête, et par ce biais déjà une sorte de prescience du dessin que j'allais peut-être trouver en discussion avec cette œuvre-là. Et ensuite, avec tout le reste de son cinéma, puisque moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé parmi tout ce que j'ai pu découvrir, puisque donc ça a été une découverte totale, enfin quasiment totale, puisque c'est une figure tellement connue aussi qu'évidemment on en connaissait beaucoup sans rien en connaître, en fait.
François Rivière, quand vous entendez Laureline Matuissi parler de son rapport à Cocteau, c'est-à-dire quelqu'un qu'on croit connaître, mais qui est déjà maintenant un peu éloigné, hein, il a marqué plutôt la première partie du siècle dernier.
Laureline dit exactement ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que le lien qui s'est fait, qui continue à se faire d'ailleurs entre d'autres générations que la mienne, avec Cocteau, c'est le cinéma. La Belle et la Bête, c'est le parfait exemple, puisque c'est un conte de fées. Or, la vie de Cocteau, c'est un conte de fées. Enfin, c'est vraiment, on peut la voir comme ça, une sorte de conte de fées avec des tas de moments un peu difficiles, comme dans les contes de fées, hein, où on risque de se faire manger par l'ogre. Lui, l'ogre, c'était l'opium, je pense.
Vous avez imaginé, pour cette bande dessinée, Cocteau, l'enfant terrible, édité chez Casterman, avec Laureline Matuissi, vous avez imaginé un procès.
Je dis pas que ça s'imposait, mais d'une certaine manière, dans la mesure où il a été lui-même tout le temps en procès, il a fallu qu'il se défende, il était jugé en permanence par des tas de gens qui lui voulaient du mal, hein, souvent, les surréalistes, bon, c'est très méchant avec lui, les gens qui lui trouvaient un mode de vie totalement répréhensible, puis on pourrait faire la liste, la police qui venait chez lui quand il avait été dénoncé par un dealer jaloux de son dealer à lui, enfin bref, on n'en finirait pas. Et donc, il est en procès. Il est en procès permanent.
Mais le fait de faire le procès de Cocteau comme fil rouge de cette bande dessinée pour rappeler les grands moments de sa carrière, mais aussi de sa vie personnelle, c'est aussi une question que vous vous posez. Comment être vis-à-vis d'un type comme Jean Cocteau, avec ses parts d'ombre et sa part de génie?
En fait, dans la construction du scénario, il se trouve que donc François, qui le connaissait lui parfaitement, est arrivé avec une base, enfin avec quelque chose de chronologique et de très nourri. Moi, de mon côté, en fait, qui le connaissais moins, j'ai proposé à François qu'on qu'on fasse cette espèce de mise en abîme dans le Testament d'Orphée, parce que d'une part, ça nous permettait de parler de poésie sans parler factuellement de poésie, c'est-à-dire ça nous ouvrait une sorte voilà d'immersion comme ça dans son œuvre, dans cette imagerie que moi je trouve extraordinaire, et dans le Testament d'Orphée en plus, enfin voilà, il y va pas de main morte, il y en a plein partout, c'est une sorte de carnaval que moi j'adore, mais donc ça permettait à la fois de parler de poésie, ça permettait à la fois, moi je reviens à cette histoire de cinéma, de parler de cinéma parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais aussi ça permettait en ce qui me concernait, de pouvoir retracer aussi, en quelque sorte, les raisons. Ce procès était une sorte d'enquête personnelle aussi me concernant, voilà, où je pouvais aussi chercher à comprendre les raisons pour lesquelles il était aussi, il semblait aussi suspect aux yeux des gens. En fait, voilà.
Pour de bonnes raisons, non, François Rivière, il a quand même traversé les deux grandes guerres en mondain, quoi.
Oui, il a fait ce qu'il a pu.
C'était pas grand-chose en ce qui concerne.
Ah, il a quand même participé à la Première Guerre mondiale, même s'il le faisait en pyjama rose. il était ambulancier quand même, avec ses amis mondains. C'est-à-dire que finalement, il y a tout le temps le côté. Il y a toujours les deux côtés, quoi. Il y a le côté où on peut l'attaquer, le trouver trop frivole, et puis celui où il essaie, en bon petit garçon qui s'implique quand même, qui essaie d'aller au secours de la patrie. La Seconde Guerre mondiale, c'était un peu différent. Là, il a été justement l'objet de beaucoup de critiques.
Et de procès, parce que vous parlez du procès de son dernier film, Le Testament d'Orphée, qui devient donc dans votre bande dessinée très centrale, puisque c'est la trame narrative de la bande dessinée repose sur ce procès, mais lui-même, à la Libération, il a été inquiété et il a eu des défenseurs.
Il a rien fait de mal, il a pas été collaborateur. Hein. Il a fait une énorme bêtise, bon, dont on parle dans le livre. Il y a même une scène justement où on voit face à Jean Marais qui lui dit mais comment est-ce que tu as pu prendre écrire un texte, un salut à Arno Breker qui était le sculpteur
fétiche d'Hitler,
prétendument fétiche, en tout cas oui revendiqué par les nazis, et Cocteau lui dit mais oui peut-être j'ai peut-être une connerie mais c'est un ami, je suis fidèle en amitié depuis toujours, et donc voilà. Il avait toujours des bonnes raisons, de toute façon, de s'en sortir. Un peu plus tard, il a défendu Jean Genet, qui était pourtant pas un grand escroc, mais qui était un voleur de livres. Donc ça l'a mené au tribunal. L'idée du procès est permanente, parce qu'en plus, un procès, c'est un spectacle. Et Cocteau, c'était un homme de spectacle. Donc ça lui allait finalement assez bien d'avoir à se défendre toujours. C'est-à-dire qu'il avait un rôle.
Comment vous avez choisi les séquences de sa vie et de son œuvre pour votre bande dessinée Cocteau, l'enfant terrible?
Il y a des séquences qui se libèrent d'elles-mêmes, si je puis dire, du magma de sa vie. Il y a des grands moments, je sais pas, sa découverte de ballet russe, sa découverte de Picasso, enfin sa découverte, le début de son amitié un peu bizarre avec Picasso, qui a suivi un peu comme ça. Il a un peu vécu aussi dans l'ombre de la gloire de Picasso. C'est un Picassiette, si j'ose dire, et il avait un côté comme ça du type qui veut tout le temps être un peu à la mode. Hein. Il a vraiment tout fait aussi pour qu'on parle de lui. Tout le temps, mais donc se dégagent des séquences qui deviennent incontournables dans la mesure où on est obligé de passer sous silence les moments où il rame un peu, parce qu'il y a des moments on ne s'est pas appesanti tellement sur les périodes de désintoxication, parce que c'est quand même pas le plus passionnant. Or l'opium, oui, joue un rôle, et dans la bande dessinée, oui, son addiction à l'opium crée une espèce d'ambiance, d'atmosphère très particulière, qui pour moi est reliée à la poésie. Enfin, c'est-à-dire que le poète, c'est l'opiomane, hein, quand même, un peu. C'est-à-dire que les visions de Cocteau, notamment dans ses dessins, les dessins qu'on trouve dans le fameux livre intitulé Opium, qui est pour moi un de ses plus beaux livres, avec La difficulté d'être, qui est pour le coup un livre très profond et pas du tout frivole. Mais dans Opium, il y a des choses magnifiques. Enfin, et là, on est hors sol, comme on dit aujourd'hui. C'est un poète
qui va essayer d'adapter sa poésie au théâtre, au cinéma, à la peinture, au dessin, mais qu'il est fondamentalement poète.
Oui, il est fondamentalement poète, mais justement parce que quand il fait du théâtre, c'est quand même du théâtre. Le roman, c'est du roman. Et le cinéma, c'est du cinéma. C'est-à-dire que pour le cinéma, il bricole des choses, il invente des effets spéciaux, etc. Tout en restant effectivement poète. Son œuvre poétique, qu'on peut trouver dans la Pléiade, sous forme d'un énorme volume. Hein. Et là, comme quand on feuillette, surtout quand on le lit, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a écrit énormément. Et la poésie, c'est quelque chose de permanent chez lui. Et c'est sûrement ce qu'il a fait de plus de plus fort, quoi.
J'ai cru d'abord que la poésie était un plaisir, que les muses étaient des femmes charmantes, et puis je me suis aperçu que c'était des personnes qui sont comme la menthe religieuse, qui dévorent la personne qu'elles épousent. Et je me suis aperçu que la poésie était un drame. Et à l'âge de 20 ans, j'ai complètement tourné Kazakh, ce que Mauriac appelle partir sans tourner la tête. En effet, j'ai quitté une bande d'amis sans tourner la tête. J'avais beaucoup d'amitié pour eux, et si j'avais tourné la tête, je ne serais pas parti. J'aurais été changé en statue de sucre. Et je suis parti dans une bande très vivante qui était celle de Picasso, de Modigliani.
Enfin, vous connaissez
surtout de Montparnasse, la bande, oui. Ce qu'on a appelé l'âge héroïque.
Oui.
Je me suis jeté dans cette bande, et comme j'étais en somme un homme qui venait de droite et qui arrivait à gauche, j'avais des inimitiés des gens de gauche qui me reprochaient d'aller à droite, et des inimitiés des gens de droite qui me reprochaient d'aller à gauche. J'étais dans la situation de Tirésias dans Proélus et Cressida, qui passe pour un traître auprès des Troyens et auprès des Grecs.
Voilà, c'était Jean Cocteau en 1959, François Rivière.
Ah, c'est magnifique. Là, il est sérieux, et il a même plus cette voix de canard qu'il avait.
Non, il est très énervé. C'était en 1959, venait de voir les 400 coups de François Truffaut qui voulait défendre, et il se rendait compte que très peu de cinéastes défendaient ce film. Donc, dans une interview, il se lâche où il raconte un peu sa vie, un peu ce qu'il pense. C'est en 59, il prépare son dernier film, Le Testament d'Orphée.
Et qu'il a pu faire grâce à Truffaut, notamment.
Truffaut, Yul Brynner, tout le monde voulait figurer dans le dernier film de Jean Cocteau. Quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite, c'est vrai que cette terminologie avait tout son sens au XXe siècle. Vous faites la moue, François Rivière, comme s'il transcendait ce clivage droite-gauche.
Ben là, il s'en sort très bien, mais c'est quand même un enfant de la grande bourgeoisie parisienne. Effectivement, on n'a jamais imaginé qu'il ait pu épouser les thèses marxistes. C'était pas du tout son truc. Et en même temps, il était un homme de droite tolérant, si je puis dire, qui acceptait les idées de gauche à l'époque où elles n'étaient pas encore extrêmement virulentes. Mais là, il est effectivement, dans ce qu'on vient d'entendre, il est extrêmement direct et franc. Il dit vraiment ce qu'il pense.
Le réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
N'ayez pas peur.
Je n'aurai pas peur.
Belle. Acceptez-vous que je vous voie souper?
Vous êtes le maître.
Non. Il n'y a ici de maître que vous. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid.
Je ne sais pas mentir, la bête.
Tout est-il ici à votre convenance?
Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours, et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur.
Voilà un film qu'on peut revoir en version restaurée, La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Laureline Mathuissi, vous nous avez dit que c'est ce film de Cocteau qui vous a marqué et qui vous a inspiré ce traitement graphique de cette biographie consacrée à Cocteau, L'Enfant Terrible, édité chez Casterman. Ce noir et blanc, donc.
Ce qui parcourait déjà mon travail, de toute façon, notamment dans une de mes bandes dessinées précédentes, c'était un travail sur la lumière. Et voilà, et donc du coup, dans La Belle et la Bête, on est vraiment là-dedans. Enfin, moi, ce qui m'en reste, en fait, comme trace, je l'ai revu au cinéma il y a très peu de temps, il était ressorti au cinéma. il y a 3 ans, je crois. Mais voilà, c'est l'idée d'un rapport de d'ombre et de lumière, en fait.
Et donc du noir et blanc.
Ouais. Et de fait aussi, je pensais à ça parce qu'on parlait de l'opium tout à l'heure. Alors j'espère que je vais pas trop m'en mêler les crayons, mais ce qui prend corps aussi beaucoup dans le bouquin et ce qui dialogue justement avec son cinéma, etc., c'est quand même l'idée aussi d'un personnage qui passe sa vie à traverser ce qu'il appelait la traversée des miroirs, en fait, à aller chercher de l'autre côté, à être dans une sorte de dialogue avec la poésie, mais aussi avec les morts, avec un monde qui serait un monde, une sorte d'autre côté, en fait. Et en fait, court cette idée que dans cette recherche permanente, en fait, de se confronter à une réalité qui serait une sorte de réalité parallèle, etc., eh bien, sa propre réalité devient vacillante et qu'en fait, lui-même finit par vivre dans une réalité qui n'en est plus tout à fait une et qui est aussi peut-être la réalité de ses fictions. Enfin, voilà, quelque chose où peu à peu dans notre livre, en fait, voilà, s'incarne cette idée, en fait, que Cocteau a peut-être déjà traversé le miroir, en fait.
Ce qui est remarquable dans cette bande dessinée, c'est qu'il y a quand même des chapitres de longues séquences sans parole, comme si il fallait, pour rendre hommage à Jean Cocteau, au poète, mais aussi au réalisateur, revenir sur la force des images et pas des mots.
Oui, et puis bah, surtout, c'était, je trouve que pour ce qui est de la bande dessinée, c'est quand même une façon de parler de poésie sans devoir rien en dire. Enfin, pour moi, ça allait de soi, en fait, que l'hommage qu'on pouvait faire à la poésie devait être de l'ordre de l'impalpable, en fait. Alors, bien entendu, par contre, on y introduit aussi ces mots, puisque justement, le livre finit par quelque chose qui vient de la difficulté d'être, justement. Mais un extrait de la difficulté d'être. Mais voilà, l'idée était vraiment, évidemment, qu'à un moment donné, c'est impalpable aussi. Enfin, l'idée de l'invisible, en fait, voilà, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire cette idée qu'à un moment donné, lui-même traverse des portes et il ne sait plus exactement... Enfin, nous, en tout cas, en tant que lecteur, on ne sait plus exactement dans quelle strate de réalité il évolue. C'était cette façon... Enfin, tout s'articule ensemble. C'est une façon de parler de la poésie et du coup, tout ça doit être muet. Je crois que je me suis un peu emmêlé les crayons dans ma phrase.
Non.
Mais voilà, il y a cette idée qu'en fait, l'invisible doit s'incarner dans l'image, en fait. Et que, voilà. Et du coup, un fil poétique et invisible qui doit n'être pas vu pour pouvoir être vraiment...
Mais concrètement, c'est-à-dire quand vous avez reçu les textes, les dialogues de François Rivière, vous êtes dit, vous, Laureline Matuissi, tout ça peut être exprimé juste en image, avec des mouvements, avec des scènes.
Après, on a quand même un travail de co-création, quand même scénaristique. Donc, moi, j'ai vraiment j'ai fait des parties prises, j'ai travaillé aussi sur de la séquence. C'est-à-dire, j'ai amené aussi des respirations qui étaient celles de l'image, en fait. Donc,
François Rivière, pour terminer.
Pour moi, Cocteau, c'était un peu un mort vivant. Donc, il s'agissait de, c'est un peu Nosferatu, hein, d'où le noir et blanc, qui lui va très très bien, le côté expressionniste. Son cinéma est quand même marqué par. Par l'expressionnisme allemand, ça c'est évident. Et du coup, le personnage, effectivement, de poète, de funambule, totalement lié à cette espèce d'expression, cette manière de l'exprimer graphiquement dans ce noir et blanc, ce clair obscur. Enfin, c'est ce passage de l'ombre à la lumière en permanent. Enfin, bon, pour moi, c'est une cohérence totale dans tout ça. Hein.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Avec ce matin, François Rivière et Laureline Matuissi pour Cocteau, l'enfant terrible, la bande dessinée, éditée chez Casterman. Merci beaucoup d'être venu, particulièrement à vous, Laureline Matuissi, puisque vous venez de Bordeaux, spécialement pour l'émission. Merci à vous. Merci François Rivière.
Merci, au revoir. We'll be right back.
Jamais la problématique islamique n'a été posée avec autant d'acuité que ces temps-ci.
À l'occasion du 10e anniversaire de la promulgation de la loi proscrivant la dissimulation du visage dans l'espace public, Khaleb Bencher dresse un état des lieux du port du voile intégral en France, avec Agnès Defeo, sociologue et autrice du documentaire « Voile interdit ». Question d'islam, ce dimanche, dès 7h05 sur France Culture et sur franceculture.fr.
Enquête à la première personne, la nouvelle collection de podcasts originaux de France Culture. Que faire quand on grandit avec un père silencieux qui ne peut parler de son expérience de la colonisation française en Algérie?
Je suis originaire d'un mot de Mansoura, un village de petite Kabylie.
La journaliste Dorothée Myriam Kellou, finaliste du prix Albert Londres en 2017, a mené l'enquête et fait le récit de ce que l'histoire a tué. Enquête à la première personne, l'Algérie des camps, en podcast original sur franceculture.fr, l'appli Radio France et les plateformes dédiées.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un immense soulagement pour Emmanuel Macron, une joie intense pour Sébastien Pétronin. Sa mère, Sophie Pétronin, a été libérée hier soir après 4 ans de captivité au Mali. Nous reviendrons sur les conditions de sa libération dans un instant. Verbatim ensuite des annonces du ministre de la Santé hier soir. Après Paris et sa petite couronne, après Aix-Marseille, 4 métropoles passent en alerte maximale face au Covid-19. Et puis, que se passe-t-il au Japon pour que le Premier ministre soit bousculé par des universitaires et des chercheurs? Il l'accuse en fait de violer le principe de liberté académique. Nous irons à Tokyo dans cette édition. C'était la dernière otage française dans le monde. Sophie Pétronin a donc été libérée hier soir, presque 4 ans après son enlèvement à Gao, dans le nord du Mali. 4 ans passés aux mains de groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, une émanation d'Al-Qaïda. Sophie Pétronin est maintenant dans un vol pour la France, après une semaine d'incertitude, faisant craindre même une négociation avortée, Claude Guibal.
Il y a d'abord eu ces avions discrets qui se sont posés le week-end dernier dans le centre et le nord du Mali avec à leur bord ces hommes, des prisonniers. Une libération d'une ampleur exceptionnelle, plus de 200 djihadistes, qui a fait comprendre que des négociations hors normes étaient en cours. Entamées depuis des semaines par la junte au pouvoir au Mali depuis le coup d'État du mois d'août, ces négociations secrètes avaient pour but principal la libération de Soumaïla Cissé, un grand leader politique de l'opposition malienne, kidnappé en mars dernier. Le nom de Sophie Pétronin ne s'est ajouté que sur le tard à ces négociations. Mais alors que lundi, leur libération était annoncée comme imminente, tout s'est arrêté. Terrible silence, révélateur d'ultimes tractations, intervention d'autres acteurs étrangers, parasitage. 2 jours où un avion vide a attendu à Tessalit que les négociateurs arrivent avec les otages récupérés auprès de leurs ravisseurs respectifs. Terrible attente pour le fils de Sophie Pétronin, Sébastien, qui attendait à Bamako la fin de 4 ans d'un combat obstiné d'un fils qui n'a jamais cessé d'y croire.
Sébastien Pétronin, très ému en effet, qui a donc retrouvé sa mère hier soir à Bamako. Vous l'entendrez dans le journal de 7h sur France Culture. Cette nuit, la Française a dit quelques mots à nos confrères de RFI. Elle souhaite retourner à Gao, dans le nord Mali, pour s'assurer, dit-elle, que l'organisation d'aide aux enfants qu'elle dirigeait avant d'être enlevée continue toujours à fonctionner convenablement. Emmanuel Macron accueillera la désormais ex-otage Sophie Pétronin dès son retour en France aujourd'hui. 4 métropoles françaises basculent en zone d'alerte maximale pour faire face à la propagation du Covid-19. Il s'agit de Lille, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon. L'annonce a été faite hier soir par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Dès demain donc, les mesures sanitaires seront renforcées dans ces zones avec la fermeture des bars et un protocole plus strict dans les restaurants, Cécilia Arbonnat.
C'est une liste inquiétante qui s'allonge. Lille, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon passent donc en rouge écarlate sur la carte de France. Un point d'interrogation plane sur Toulouse et Montpellier. Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Pour Toulouse et Montpellier, nous nous donnons quelques jours d'observation pour vérifier si la situation sanitaire se dégrade et si les indicateurs sont franchis. Une bascule en zone d'alerte maximale pourrait être opérée d'ici à lundi matin.
2 nouvelles villes passent en alerte renforcée.
Dijon, que vous voyez apparaître, a maintenant un taux d'incidence chez les personnes âgées qui justifie son classement en zone d'alerte renforcée. De la même manière que Clermont-Ferrand pour ces deux métropoles. Ce passage se fera dès samedi matin.
Le discours se fait pédagogue. Olivier Véran regarde chaque Français dans les yeux.
Dans cette lutte que nous menons, cette lutte acharnée contre la diffusion du virus, nous détenons chacun de nous une part de la victoire.
La locution se termine par un message d'affection, presque tendre, envoyé aux soignants.
Nous tenons à vous, soignants. Nous vous remercions pour votre mobilisation de tous les instants. Et j'en profite pour appeler celles et ceux qui le peuvent également à rejoindre les renforts à travers la réserve sanitaire.
Problème, une partie des effectifs de cette réserve sanitaire est déjà sollicitée en Île-de-France.
Cécilia Arbona pour France Culture. Hier soir aussi, aux côtés d'Olivier Véran, Bruno Le Maire a pris la parole. Le ministre de l'économie annonce l'extension du fonds de solidarité à de nouveaux secteurs reliés aux activités de la culture, du tourisme, du sport, qui n'étaient jusque-là plus pris en compte. Cela concerne les entreprises jusqu'à 50 salariés au lieu de 20. Plafonnement des volumes et usage limité. L'agence sanitaire l'ANSES annonce des restrictions d'utilisation pour le glyphosate, pour la viticulture, l'arboriculture ou les céréales. Ces restrictions entreront en vigueur dans les 6 mois qui viennent pour avancer vers la fin totale de l'herbicide controversé promise pour 2023 dans le pays. Notons aussi que l'Assemblée nationale hier a donné son premier feu vert pour une proposition de loi qui permet notamment l'allongement du délai légal pour recourir à l'avortement. 86 voix pour, 59 contre à l'issue de débats houleux avec la droite. C'est notamment C'est désormais au tour du Sénat d'examiner cette proposition de loi. Le délai pour pratiquer une IVG en France pourrait donc être allongé de 12 à 14 semaines. Applaudissements des féministes, critiques déjà des gynécologues. À peine installé au pouvoir, le premier ministre japonais Yoshihide Suga affronte une crise inattendue. Le chef du gouvernement est vivement critiqué au Japon par le monde universitaire et scientifique. Il l'accuse, et ce n'est pas rien, de violer le principe de la liberté académique, pourtant inscrite dans la Constitution. Explication de Karine Nishimura, notre correspondante à Tokyo.
C'est le Premier ministre lui-même qui a mis le feu aux poudres. Il a retoqué la nomination de 6 universitaires au Conseil scientifique du Japon, une sorte d'Académie des sciences. D'habitude, depuis 7 décennies, le Premier ministre se contente de valider les noms de personnalités reconnues dans leur domaine et officiellement recommandées par leur père pour rejoindre cette instance financée par les pouvoirs publics mais indépendante. C'est donc une nomination de pure forme. Mais cette fois, le Premier ministre Suga s'en est mêlé, jugeant que ces scientifiques avaient pour mission de travailler pour le pays et qu'il était donc légitime de sélectionner. Du coup, tout le monde le soupçonne d'avoir purement et simplement sanctionné des spécialistes du droit, de la politique, de la religion ou de l'histoire qui ne lui plaisent pas. Car ces 6 personnes écartées ont en commun d'avoir dans le passé pris position contre des lois et avis du gouvernement Abe, dont l'actuel Premier ministre était un pilier. L'onde de choc dépasse les seuls milieux universitaires, des journalistes, des écrivains, des réalisateurs de cinéma, des avocats, des constitutionnalistes, de nombreuses instances éducatives, scientifiques ou culturelles dénoncent une situation extrêmement grave, une menace pour la liberté d'expression et la liberté académique. Autoritaire et entêté, le Premier ministre Suga est réputé pour avoir fait le tri dans l'administration, mais en s'attaquant désormais au milieu académique, il franchit un niveau que beaucoup jugent inacceptable.
Karine Nishimura, notre correspondante à Tokyo. Plus au nord, vers les îles Kuriles, une nappe de pollution de 40 km de long a provoqué des morts massives d'animaux, des blessures aux baigneurs dans l'extrême-orient russe. Cela se passe au Kamtchatka. Cette pollution se déplace sur l'eau et dérive vers le sud, donc vers le Japon, sans diminuer de taille, indique déjà un biologiste russe sur place. Vladimir Poutine invite au Kremlin aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Les deux pays sont engagés, je vous le rappelle, dans des combats meurtriers dans la région séparatiste du Haut-Karabakh depuis presque 2 semaines. Moscou espère un cessez-le-feu. 3 mois que la rue se mobilise en Bulgarie. 3 mois que les manifestants demandent la démission du gouvernement. Et alors que Bruxelles a pris hier fait et cause pour les manifestants avec une résolution votée au Parlement européen, nous faisons ce matin le bilan de cette contestation. C'est avec Damien Vodinitcharov.
Le Premier ministre Boyko Borissov a vacillé à plusieurs reprises. Il s'est dit prêt à jeter l'éponge en août. pour faire volte-face le lendemain. Le gouvernement passe maintenant à l'offensive. Des allocations plus importantes, une hausse des retraites de 25 euros par mois, des promesses de pensions plus élevées l'année prochaine, lorsque se tiendront les prochaines législatives. Et les manifestations donnent du fil à retordre aux politiques de toutes les couleurs. Le parti GERB de Borisov, comme le parti socialiste dans l'opposition, risque de perdre la moitié de leur électorat au profit de nouveaux venus au Parlement. Les manifestations, quotidiennes au début, sont maintenant organisées autour de grands soulèvements populaires, en référence au souffle révolutionnaire du 19e siècle. Ces manifestations grand format rassemblent des mécontents de tout le pays, venus jeter des œufs et des tomates aux portes du Parlement et du Conseil des ministres. Le Parlement européen a finalement regardé de près la situation en Bulgarie. Les députés européens ont même adopté une résolution pour exprimer leurs inquiétudes vis-à-vis des grands dossiers dans le pays. Manque de résultats dans la lutte contre la corruption et dans la réforme du système judiciaire, détérioration de la liberté de la presse, détournement des fonds européens au profit des oligarques. Cet intérêt de la part du Parlement européen est vécu comme une petite victoire par les protestataires pour qui la corruption est au cœur du pouvoir détenu par Borisov depuis près d'une décennie. Pourtant, cette résolution n'est pas contraignante. Le levier principal de Bruxelles demeure le mécanisme de coopération et de vérification mis en place en 2007 lorsque la Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l'Union européenne.
Damian Vodenicharov pour France Culture. Les averses progressent sur une large moitié nord du pays ce matin, d'ouest en est au fil de la journée. Ailleurs comme hier, le soleil se fera une place avec 9 degrés ce matin à Brest, 12 à Bordeaux et Strasbourg, 14 à Paris et 16 à Nice. Il est 6h40 sur France Culture, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Les vendanges sont rentrées, l'ensoleillement sera favorable à la qualité du millésime. Malgré les difficultés dues à la crise sanitaire, à la sécheresse et à la hausse des droits de douane, c'est traditionnellement un moment de fête.
Eh oui. Alors on l'appelle la gerbaude dans le Bordelais, du nom de la gerbe de fleurs que l'on plaçait sur la dernière charretée de la moisson, la polée en Bourgogne, l'arvoule dans le Beaujolais, le cochelet en Champagne, parce qu'on faisait boire un coq lâché ivre au milieu des convives. La fin des vendanges était toujours partout synonyme d'agape bien arrosée. La revue Le Rouge et le Blanc s'intéresse au sylvanaire, cépage typiquement alsacien, victime de tous les débordements productifs, dont trop souvent le caractère délicat et subtil s'est dilué avec les hectolitres. Sonia Lopez-Calleja s'est attardée dans le Zotzenberg, un terroir qui lui a valu son accession au rang de grand cru en 2005. Le sylvanaire est né au Moyen-Âge d'un croisement entre le Savagnin et l'Österreichische Weiß dans l'est de l'Autriche. Plutôt fragile au gelé, il est très sensible à l'oïdium et à l'esca, moins au mildiou et à la pourriture grise. Mais champignons et bactéries ne sont pas tous nocifs, bien au contraire, et pourraient même constituer une solution pour une agriculture moins dépendante des engrais et des produits phytosanitaires. C'est ce que révèle le passionnant entretien avec Marc-André Sellos, biologiste, botaniste et mycologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Le champignon, par exemple, grâce à ses filaments microscopiques formant le mycélium accroché aux racines, étend considérablement le volume de sol exploré, ce qui coûte moins cher à la plante que de fabriquer de la racine, et lui permet d'augmenter l'efficacité d'exploration du sol et d'aller chercher des éléments peu mobiles comme certains minéraux, mais également l'eau. Et c'est donnant-donnant, puisque le champignon se nourrit aussi de cette symbiose. Et il protège non seulement la racine, mais également la partie aérienne de la plante en émettant des antibiotiques pour lutter contre les pathogènes. Enfin, sa présence entraîne une réponse de la plante qui accumule des défenses, notamment en fabriquant des tanins. Or, les tanins assurent la couleur, l'arôme, le goût et le toucher par leur faculté de s'agripper aux protéines, notamment celles des muqueuses, puis de s'en libérer petit à petit pour aller activer vos récepteurs olfactifs, participant ainsi à la longueur en bouche. Ils s'attachent aussi à la salive, la raréfiant momentanément. Sans se lubrifiant, vous sentez la rugosité de vos muqueuses. C'est ce qui fait l'astringence, une sensation mécanique, un toucher. Le vin est né autour de la Méditerranée. Les archéologues confirment ce moment de l'épisode biblique du déluge qui fait s'échouer l'arche de Noé sur la cime du mont Ararat dans l'ancienne Arménie. À la suite de quoi, je cite la Genèse, Noé, le cultivateur, commença à planter la vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda sous sa tente. Un euphémisme pour dire qu'il s'est adonné à la luxure, en l'occurrence à l'inceste, comme le suggère le Lévitique. Pour les anciens Égyptiens, l'alcool était associé au sexe et copuler signifiait picoler, nous rappelle Marc Forsyth dans une brève histoire de l'ivresse publiée aux éditions du Sonneur. L'auteur, spécialiste d'étymologie et aussi en l'occurrence d'éthylisme, fait un plaisant tour d'horizon des pratiques sociales de l'ivresse depuis les temps les plus reculés et sur tous les continents. Les Grecs avaient ainsi une tradition bien établie, celle du symposion. On commençait par souper, des plats simples, avalés en vitesse et en silence. La nourriture ne comptait pas vraiment, elle ne servait qu'à éponger le vin. Puis on choisissait le symposiarque qui présidait la soirée arrosée, le plus souvent l'hôte des lieux. Après les libations commençait la beuverie et là, vous n'aviez plus le choix. Tout le monde était tenu de terminer son bol et d'accepter d'être resservi. Marc Forsyth évoque Platon qui pensait que si l'on peut se fier à un type qui est ivre, on peut se fier à lui en toutes circonstances. À la fin de son plus fameux dialogue, le banquet, les convives gisent ici et là, ivre mort, à l'exception de Socrate. Socrate, l'homme qui boit mais qui va droit, serait le modèle des philosophes qui rêvent à la fois de s'enivrer d'absolu et de maîtriser l'ivresse, commente Jean-Luc Nancy dans son beau livre sur le sujet. Ayant bu comme un trou, il part, Socrate, au matin, sans chanceler, pour arpenter en solitaire les bords du gouffre qu'il a ouvert devant tous. Connais-toi toi-même, cette promesse de vertige, présage d'une ivresse qui précéderait toutes les autres, car elle ouvre en chacun un ailleurs d'inquiétante étrangeté, la possibilité d'une chute libre ou, comme dit le philosophe, d'une rupture de digue par où ça peut couler. – 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie. –
Bonjour Lacombe. Jacques Munier.
– Aujourd'hui, la déscolarisation dans le monde due au Covid-19.
– Oui, l'UNESCO évoque une urgence éducative mondiale, des répercussions sur les économies et les sociétés pendant des décennies. Bonjour Sobita Will.
– Bonjour. –
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la prospective de l'éducation, le futur de l'éducation et de l'innovation à l'UNESCO. Que dit la carte mondiale que vous avez sans doute en tête des établissements scolaires qui sont restés fermés depuis le début de la pandémie ou qui ont fermé en cours de route et du nombre d'élèves que ça concerne?
Merci. Je pense qu'un premier point à rappeler, c'est que la crise du Covid est plus qu'une crise sanitaire. Ça affecte l'éducation, mais ça affecte un ensemble de dimensions de développement. Ça remet en question en fait des progrès sur des années. Si on cite juste quelques chiffres, les projections par exemple par rapport à la pauvreté, c'est qu'il y aurait d'ici la fin 2021 près de 195 millions de personnes qui vont être poussées dans la pauvreté extrême.
Et des enfants qui ne vont plus à l'école alors.
Et pour les enfants qui ne vont plus à l'école, donc l'impact sur l'éducation, c'est on l'a vu en début d'année, donc la fermeture, une fermeture à une échelle qu'on n'a jamais vue dans l'histoire, donc dans plus de 190 pays, les écoles ont été fermées. Ça concernait 1,5 milliard d'élèves et d'étudiants de par le monde. Un milliard et demi au pire de la crise en mars-avril. Donc, ils ont eu leur éducation interrompue, déstabilisée, je dirais.
Et un milliard n'avait pas repris le chemin de l'école à la rentrée, là, en septembre.
Alors, ici, maintenant, on est, pour les trois quarts des pays dans le monde, au début d'une nouvelle année académique. Il y a les écoles sont ouvertes complètement dans une centaine de pays, avec des précautions au niveau de santé qui sont différentes. On gère ça de façon très différente selon les pays et les régions. Mais il y a encore, dans 30 pays, les écoles, les systèmes scolaires qui sont encore fermés à cause du Covid et le plus souvent dans des pays à grande population. Et donc, on a aujourd'hui encore 520 millions d'élèves et d'étudiants qui sont affectés par la fermeture des établissements scolaires éducatifs.
Il faut s'imaginer concrètement ce que ça veut dire. Un enfant qui ne va pas à l'école, c'est un enfant qui travaille, c'est un enfant qui mange moins dans les pays pauvres où la cantine est parfois le seul repas par jour.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est important de rappeler que l'école est plus qu'un lieu d'enseignement. Donc, en fait, la fermeture des écoles, c'est aussi une interruption des services éducatifs. Vous l'avez très bien dit, les repas scolaires, au niveau mondial, il y a 370 millions d'enfants pauvres qui profitaient, en fait, de repas scolaires. Et ça a été interrompu.
Les petites filles fragilisées dans certains pays aussi. Les associations disent que 13 millions de jeunes filles pourraient être mariées en étant mineures dans les 10 prochaines années.
Tout à fait. Alors ça, c'est l'autre aspect, je dirais, de l'importance de l'espace scolaire au-delà de l'enseignement. C'est un espace qui devrait protéger, assurer une certaine sécurité. Alors, avant le Covid, on estimait à 100 millions de filles qui étaient en dehors de l'école. Ça peut, maintenant avec la crise, on pense que 20 millions de plus de filles pourront ne pas retourner. Et souvent pour des raisons de mariage précoce ou de responsabilité familiale à un âge...
En Éthiopie, par exemple, les autorités locales disent avoir empêché plus de 540 mariages d'enfants en mars et avril au Kenya. Le gouvernement dit assister à une très forte augmentation des grossesses adolescentes. Et il faut rappeler que les centres de soins pour les filles ont beaucoup fermé avec la crise sanitaire. Donc ce sont des problèmes qui s'accumulent. Pourquoi est-ce qu'on gage déjà que la plupart de ces enfants ne retourneront sans doute jamais à l'école? Pourquoi ces estimations?
Ces estimations liées donc à la question de l'impact sur la pauvreté, de la pauvreté sur les familles, sur le besoin de travail des enfants. On sait que le travail des enfants est en augmentation.
Dans les champs, à l'usine, dans la rue.
Dans la rue et même à la maison, que les filles ont une part disproportionnée en fait du travail à la maison et donc à un jeune âge peuvent être détournées vers ça au lieu de la scolarité. On estime maintenant que les estimations, il y a des projections très différentes de la part de différents partenaires, mais à l'UNESCO on estime que 24 millions d'enfants ne retourneront pas à l'école. Et on craint que même pour ceux qui retournent, il y aura aussi des abandons en cours de route selon l'évolution du Covid, mais aussi à cause du retard pris dans les apprentissages pendant cette période de fermeture.
L'effet du décrochage, Sobita Will, il y a aussi des choses positives qui se sont passées pendant la crise sanitaire et qui continuent évidemment, puis d'ailleurs la crise continue. Il y a eu des alternatives qui se sont improvisées, des bénévoles qui se sont investis, des énergies déployées. Il y avait un reportage par exemple dans le journal Le Monde très récemment avec des bénévoles dans un centre de soutien scolaire à New Delhi en Inde, une école informelle que le reporter décrit comme rudimentaire, des sièges en plastique ou en bambou. Un tableau pliable placé sur un terrain en terre. Le terrain est un capharnaüm inimaginable, encombré d'engins de chantier et de poutrelles métalliques où vaches, chiens, chèvres et vaches, mais où les bénévoles font de leur mieux. Il y a aussi, dans un autre genre, du matériel qui est distribué par des start-up qui proposent des cours à distance, du matériel pédagogique. Est-ce que vous, à l'UNESCO, qui travaillez aussi sur les technologies de l'éducation, vous avez distribué à tout va du matériel à des enfants qui n'ont pas accès à l'école à distance? C'est quand même une évidence qu'il faut rappeler.
Donc, à rappeler que la fermeture soudaine et massive des écoles était imprévue, personne n'était préparé, donc les réponses étaient l'enseignement à distance avec différentes modalités. Dans certains cas, dans des contextes de technologie numérique, dans d'autres cas, des technologies à basse intensité, si on veut.
Oui, parce qu'on n'a parfois pas le réseau, mais pas d'électricité non plus. Enfin, c'est pas qu'une histoire.
Tout à fait. Et puis aussi, l'enseignement à distance, je dirais traditionnel, sur la base de distribution de matériel qui pouvait être récupéré à l'école. D'ailleurs, même ici en France, pour certains quartiers difficiles, on mettait à disposition le matériel que les familles pouvaient venir récupérer. Donc ce qu'on a appris de cette, en termes
de leçons que vous avez apprises, parce oui. qu'on a beaucoup dit à une époque, l'avenir de l'éducation, c'est l'école à distance.
Tout à fait. Donc au début, certains étaient optimistes pour dire que finalement, on a une transformation imposée de ce modèle scolaire hérité du 19e siècle. Et donc, la technologie, c'est l'avenir, etc. Ceux qui parlaient avant le Covid que l'avenir, c'est aujourd'hui. Mais je pense qu'on a une évaluation un peu plus nuancée aujourd'hui pour dire que les technologies ont pu réussir dans certains contextes, mais beaucoup moins, et que la télévision et la radio fonctionnaient en termes d'égalité et d'accès mieux, et dans beaucoup de cas, en fait, les réponses, l'enseignement à distance traditionnel sur base de matériel sans technologie était également efficace. En tout cas, quelles que soient les modalités d'enseignement à distance, on estime que un tiers des enfants de par le monde, des élèves, n'ont pas eu accès à un enseignement, une continuité pédagogique pendant cette période.
Donc, rien ne peut compenser la réouverture des écoles.
Tout à fait.
Il y a eu dans certains pays, par exemple au Nigeria, en République démocratique du Congo, des distributions de tablettes depuis lesquelles on peut accéder au matériel pédagogique, même sans avoir de réseau, mais elles coûtent quand même autour de $150. Et d'autres pays qui ont opté pour des voies beaucoup plus classiques que vous venez de citer, le Burkina Faso, qui a mis en place une fréquence radio pour l'enseignement à distance. Donc il y a des choses qui se font.
Tout à fait. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ont bien marché. Les enseignants étaient et souvent des pionniers de l'innovation, avec un effort d'adaptation et de flexibilité par rapport aux circonstances. Il y a beaucoup de cas, disons, d'expériences réussies à niveau local.
Et à l'échelle nationale, alors, est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté politique de trouver des solutions, ou est-ce que vous constatez aussi des renoncements sur la question éducative, pour conclure ?
Non, je pense qu'il y a une volonté. Si on a appris une leçon pendant cette période, c'était de l'importance de l'école comme espace public, et que rien ne remplace, même dans les modalités d'enseignement à distance numérique qui fonctionnent dans des contextes favorables, rien ne remplace l'espace social en termes de socialisation, en termes d'apprentissage avec les autres. Donc l'accent est mis sur la réouverture des écoles, avec des leçons à tirer sur comment améliorer l'efficacité en termes d'introduction de technologies ou autres.
Donc il y a la question de l'aide internationale, mais aussi, encore faut-il sanctuariser les budgets nationaux de l'éducation, et parfois c'est la justice qui vient rappeler aux États leur rôle en la matière, notamment en Inde, la Haute Cour de Delhi qui a ordonné aux écoles privées de fournir aux étudiants les plus pauvres des appareils électroniques et des connexions Internet pour suivre les cours en ligne. Merci beaucoup Sobita Will d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de la prospective de l'éducation, le futur de l'éducation à l'UNESCO. Merci.
Merci à vous. Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente L'aventure invisible de Marcus Lindin au T2G, Théâtre de Gennevilliers. Amnésie, pratique occulte, greffe de visage, à travers les itinéraires exceptionnels de trois personnes contraintes à se réinventer, suivons le cours d'une aventure intérieure où aucune question n'est trop intime pour être posée. Voyage en nous-mêmes, sous la peau du visage, dans les méandres du cerveau. L'aventure invisible, du 10 au 17 octobre, au T2G, Théâtre de Gennevilliers, avec le Festival d'automne à Paris. Un partenariat France Culture.
6h57, vous écoutez France Culture, et Guillaume Erner et son équipe sont, les matins de France Culture sont aux rencontres de Blois aujourd'hui. Bonjour.
Mais absolument,
Guillaume.
Nous y sommes, nous sommes à Blois. Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Eh bien, c'est votre humeur du jour, Guillaume. Pour commencer.
Eh ben, je ne vous le cache pas, qui est le nouveau prix Nobel de littérature ? Louise Gluck ? Eh bien, on ne sait pas, Julie. Enfin, on savait pas. Autant être franc, personne, en France en général et sur France Culture en particulier, ne connaissait vraiment Louise Gluck. Tout ceci nous renvoie en 1996, une année où c'est Wisława Szymborska, l'écrivaine polonaise, bien sûr, qui a obtenu le prix Nobel de littérature. À l'époque, Wisława Szymborska était inconnue. Bon, pas sûr que les choses aient vraiment changé depuis, même si, je tiens à le souligner, être un Nobel inconnu n'est pas du tout la même chose qu'être un soldat inconnu. Alors évidemment, apprendre ça comme ça, à 13 heures, pour un journaliste, c'est Louise Gluck, la nouvelle prix Nobel, c'est un peu la tuile. À 13h, tout le monde attend votre commentaire, tout le monde vous regarde et vous en êtes réduit à aller voir sur Wikipédia la page de Louise Gluck pour dire Louise Gluck, née le 22 avril 1987 à Thonon-les-Bains, est une nageuse olympique. Non, ça, ça doit être une homonyme. Alors certains vont ronchonner que le niveau baisse sur France Culture. Avant, ça serait pas arrivé, mais j'ai vérifié. En 1996, Jean Lebrun ignorait que Louise Gluck était prix Nobel de littérature 2020. Et puis, on ne peut pas tout savoir, mais moi, je connais la liste des gens qui, à France Culture, ne savaient pas qui était Louise Gluck. Je les cite, Emmanuel Laurentin, Xavier Mauduit, Géraldine Mosnas, à voir. Alors, la plupart sont tablois, je ne sais pas si c'est un hasard. Entre nous, il devrait y avoir des lois. Si vous voulez donner un Nobel inconnu, vous avez le droit, mais vous le faites de nuit pour qu'on ait le temps de se préparer. C'est exactement l'inverse que les morts célèbres. Si vous êtes si vous êtes célèbre, vous mourrez le jour, parce que la nuit, c'est pas possible de réveiller vos meilleurs amis pour le leur apprendre et leur dire, voilà, je vous appelle parce que, par exemple, Philippe Roth est mort. J'aimerais une réaction rapide, s'il vous plaît. Absolument, parce que Philippe Roth est mort, j'espère que vous le saviez, sinon ça a dû vous faire un choc. Il est mort d'ailleurs sans avoir le prix Nobel de littérature. Je ne sais pas si vous remarquez l'injustice. Je veux dire l'injustice pour les journalistes, parce que l'on savait pertinemment qui était Philippe Roth. Mais voilà, le sort en a décidé autrement. C'est Philippe Roth qui est parti alors qu'on l'attendait pour le Nobel. D'ailleurs, à mon sens, il est parti parce qu'il en avait marre d'attendre. Il a dit, bon bah si c'est comme ça, je vous laisse avec Louise Gluck. En tout cas, l'Académie Nobel devrait faire attention, parce qu'on va finir par faire la grève du Nobel de littérature entre les années où il ne le donne pas, celle où il le donne à un chanteur, la fois d'après à quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'an prochain, ils vont le donner à qui ? Un graphophobe, un plagiat. Remarquez, d'ici là, on aura terminé l'œuvre de Wisława Szymborska.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, les matins sont en direct des rendez-vous de l'histoire de Blois et l'on va évoquer l'histoire des Juifs, car paraît une monumentale histoire des Juifs aux Presses universitaires de France. Nous recevrons Pierre Savy, Audrey Kishlevski et également Katel Bergoulot qui a coordonné cet ouvrage. Il est 7h sur France Culture.